France Inter.
I want to thank first the incredible team at Unfold Interactive. All the people who worked on this game to make it happen, it's really a teamwork. So just thank you to everybody who contributed. And also, I want to extend a thank to the people who make tutorials on YouTube on how to make a game, because we had no idea how to make a game before. So thank you.
Il a 33 ans, un béret rouge, une marinière et yes, ce French accent. Guillaume Broche vient de voir son jeu vidéo made in Montpellier triompher au Game Awards de Los Angeles avec 9 récompenses. Clair Obscur Expédition 33 est sorti en avril. Il s'est déjà vendu à 5 millions d'exemplaires. Une tournée internationale pour la musique du jeu et une adaptation au cinéma sont en préparation. C'est un moment Coupe du Monde 98, résume le président du syndicat national du jeu vidéo. En réalité, c'est un rayon de lumière sur un secteur morose. Regardez ce qui est arrivé à la pépite Ubisoft. Depuis 3 ans, depuis la fin du Covid et du confinement, l'euphorie des investisseurs est retombée. Et dans les studios de la planète entière, 30 à 40 000 postes ont été supprimés. Pour les professionnels, pour les jeunes diplômés, l'avenir est incertain. Vous avez entendu dans le son Guillaume Broche qui remercie les youtubeurs qui font des tutos. La légende raconte qu'il s'est lancé avec peu de connaissances, mais un excellent logiciel. Eh bien ça, c'est un nouveau modèle économique. Et on peut parier que l'intelligence artificielle va encore accélérer ce phénomène, que de nouveaux autodidactes tenteront leur chance depuis leur chambre ou leur garage, loin des riches grands studios et de leurs équipes fournies. À Montpellier, le studio de Guillaume Broche, c'est 30 personnes, de l'argent privé et des aides publiques. La filière est soutenue par le CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, par un crédit d'impôt dédié et souvent par les régions. L'objectif, c'est de préserver l'emploi, préserver le savoir-faire, mais nous avons un vrai enjeu de souveraineté à le faire. À l'échelle mondiale, le jeu vidéo, il pèse plus que la musique, plus le cinéma réuni. Et ce ne sont pas seulement les jeunes qui font rayonner son soft power. Écoutez ce chiffre ébouriffant. Chez nous, parmi les 65-80 ans, près d'un senior sur deux serait un ou une adepte des jeux vidéo.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bienvenue, c'est samedi, c'est le moment où on se détend et on parle d'économie. L'équipe qui vous a préparé le menu du jour est composée de Valentin Pérez, mon coproducteur, Étienne Bertin, le réalisateur, Anne-Cécile Perrin, l'attachée de production, Anne-Laure Cochet au mix et Gaspard Guy Bourget face à moi, derrière la vitre à la technique. Gros plan sur la santé ce matin, notre invité c'est Étienne Tichit, le patron de Novo Nordisk en France, le laboratoire. Vers 9h40, interview sur la révolution des médicaments anti-obésité comme l'Ozempic et le Wegovy. Nous ferons aussi un gros plan sur les contrefaçons de médicaments. Un fléau sanitaire, un commerce illégal et qui coûte cher à la société. Vous entendrez le reportage de Léa Gage. Madame Vieux-Boulot est avec nous. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Ce samedi, vous répondez à la question de Vincent, notre auditeur qui est coursier à vélo.
Oui, et c'est une question qui concerne beaucoup de monde. Vincent veut savoir si son employeur peut lui retirer du salaire s'il met trop de temps à commencer à travailler.
Ah oui, rendez-vous juste avant 10h pour la réponse à la question de Vincent qui intéresse pas mal de monde. Mais d'abord, le temps du débat avec ce samedi un duo d'économistes. Bonjour Anne-Laure Delatte.
Bonjour Alexandra.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Et bonjour Patrick Artus.
Bonjour Alexandra.
Vous êtes conseiller économique chez le gérant d'actifs Ociam. Alors, la discussion qu'on va avoir maintenant, elle est nécessaire pour se faire un avis sur un phénomène silencieux. Je parle de l'euro numérique, la monnaie digitale sur laquelle travaille la Banque Centrale Européenne depuis plusieurs années. Pour l'instant, tout se joue en coulisses, mais 2026 s'annonce comme une année cruciale pour le projet. C'est ce qu'écrivent cette semaine un des dirigeants de la BCE, Piero Cipollone, et le commissaire européen Valdis Dombrovskis, dans une tribune qui a été publiée par Les Échos. Alors, cet euro numérique, de quoi s'agit-il exactement? Comment est-ce que cette monnaie virtuelle fonctionnerait? Mais surtout, dans quel but? Au fond, la question, c'est avons-nous vraiment besoin d'un euro numérique? Et si vous ne vous êtes jamais posé cette question, eh bien, c'est le moment, c'est maintenant.
Fini les banques, les American Express, Visa et autres PayPal, l'Europe pourrait devenir votre moyen de paiement. C'est en tout cas le projet d'euro numérique géré par la Banque Centrale Européenne.
I have good news for you on the
J'ai de bonnes nouvelles pour vous concernant l'euro numérique.
Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne.
Today, the Governing Council
Aujourd'hui, le Conseil des gouverneurs a décidé de passer à la phase finale des travaux préparatoires. Autre bonne nouvelle, le 23 octobre, le Conseil européen nous a demandé d'accélérer le processus afin de déployer l'euro numérique au plus tôt.
La version actuelle de la Banque Centrale Européenne ne répond à aucune demande.
Daniel Ball, président de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, président de la Fédération Bancaire Française.
Parce que ça signifie de créer en fait un deuxième portefeuille. En pratique, notre client aurait un portefeuille, son compte habituel, en euros, et à côté de ça, un portefeuille en euros numériques. On prend un vrai risque opérationnel si on donne totalement les clés de ces paiements en euros numériques à la Banque Centrale Européenne.
Alors là encore, visons d'éviter les faux débats.
François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France.
Le sujet n'est pas public contre privé en Europe, mais plutôt Europe vis-à-vis des États-Unis. L'administration américaine promeut l'essor de stablecoins, qui sont à 99% adossés au dollar, et elle soulève ainsi un risque de privatisation, voire de dollarisation de la monnaie.
Pour l'instant, c'est que des promesses en l'air. Oui, ce sera anonyme. En fait, non, enfin peut-être. On ne vous dit pas la techno, mais rassurez-vous, ça ira bien.
Alexandre Stachenko, directeur de la stratégie de l'application d'épargne en Bitcoin, Bitstack.
Finalement, entre un paiement sans contact en une demi-seconde au supermarché et l'euro numérique sur une appli tenue par des gens que je ne connais pas, bon, quelle est la différence, quoi ? Et on se retrouve à avoir une crainte très importante par rapport à quelque chose qui commence à monter ces dernières années, c'est la censure financière, c'est-à-dire vous êtes allé dans la mauvaise manifestation, vous n'êtes pas dans le bon parti politique, on est en campagne et je ne vous aime pas. Ah, bizarrement, vous n'avez plus de compte bancaire, flûte alors.
Voilà, je ne sais pas si tout le monde partage cette crainte extrême sur l'euro numérique, mais on va se poser la question avec Anne-Laure Delatte et Patrick Artus. Alors Anne-Laure, il faut déjà nous raconter ce que c'est qu'une monnaie, ce que serait l'euro numérique, ce que c'est qu'une monnaie numérique d'une banque centrale.
D'accord. Alors, j'ai deux minutes pour...
Même pas, non, parce qu'après, il y a Patrick.
Oui. Non, mais alors, j'ai même une minute pour vous dire qu'à la fois, ça n'est rien du tout et c'est crucial. Que c'est pas du tout technique, mais qu'à la fin, on va comprendre que c'est très politique.
Okay.
Tout simplement, l'euro numérique, ça n'est pas une nouvelle monnaie, c'est une extension de l'euro. Et c'est tout simplement une nouvelle façon de payer. Ça va venir compléter les billets et les cartes. En gros, vous aurez toujours le choix de payer en cash ou en euro numérique. Si vous avez un téléphone, Alexandra, vous avez de l'euro numérique. Tout simplement, c'est comme si tous les citoyens européens avaient un mini-compte à la Banque Centrale Européenne.
Au lieu d'être dans ma banque habituelle.
Oui.
Ok, donc j'aurai un compte dans ma banque habituelle et un compte à la BCE.
En vrai, vous aurez toujours votre banque habituelle.
Ok.
Mais, vous aurez toujours votre compte habituel, mais en gros, vous avez un portefeuille numérique et l'idée, c'est que, bon, on peut utiliser le billet, mais de plus en plus, on utilise des façons digitales de payer. Et bien là, la Banque Centrale Européenne, elle propose un nouveau service public. En fait, elle étend l'euro en disant « les usages ont changé, je m'y adapte ». Et donc, la question c'est est-ce qu'on aura le droit d'avoir 500, 3000 ou 10 000 euros sur ce portefeuille numérique ? Je pense qu'on sera entre 500 et 3000. Et donc, on n'est pas en train de vider les comptes bancaires, il n'y a pas de problème de dépôt. C'est simplement, vous aurez toujours le choix. Est-ce que j'utilise l'euro numérique ou est-ce que j'utilise des billets ?
Patrick Artus. Est-ce que vous voulez compléter cette première photo ?
Alors, l'euro numérique, ça a plein d'avantages. D'abord, c'est une lutte contre l'argent sale. Il y a moins de billets et plus d'euro numérique. Ça fait des transferts d'argent, en particulier internationaux, à des prix très très bas, alors qu'aujourd'hui les transferts d'argent internationaux sont à des prix très élevés, et donc normalement...
Vous voulez dire par exemple, ça serait dans la zone euro quand vous dites transferts internationaux?
Non, c'est des transferts internationaux, vous pourriez payer en euros numériques, un immigré vivant en France pourrait donner de l'argent à sa famille en euros numériques à l'étranger, avec un coût extrêmement faible. Donc normalement c'est un progrès technologique et un progrès de comportement. Alors, il y a des expériences étrangères. La plus intéressante, probablement, c'est l'expérience chinoise. Il y a un renminbi, un yuan numérique depuis 2001. Ça marche pas très bien. Ça n'a pas percé du tout en Chine parce que les Chinois ont accès à des logiciels de paiement. Par exemple, il y a WeChat Pay, il y a Alipay, qui ont à peu près des coûts nuls aussi. C'est très différent des cartes de crédit. Les cartes de crédit, c'est extrêmement cher d'usage. Les Chinois ont accès à un système de paiement très très bon marché. Alors le problème, peut-être que les Chinois aussi ne veulent pas que de la possible inquisition sur leur vie personnelle qui serait associée à la détention de renminbi numérique. Donc on peut peut-être pas inférer beaucoup de l'expérience chinoise. Et voilà. Et donc comme Anne-Laure l'a dit, le vrai problème, je crois, c'est que l'euro numérique, c'est une bonne idée, c'est clairement...
Je voudrais qu'on s'arrête là-dessus. Est-ce qu'on en a ? Parce que vous nous avez expliqué qu'on pouvait payer facilement on a plein de trucs maintenant pour payer.
C'est beaucoup plus pratique que porter une valise de billets. Et donc ça, le vrai problème, c'est quel sera le plafond des portefeuilles d'euros numériques ? Est-ce que ce sera un plafond ou ce sera un substitut des billets ? Ou est-ce que ce sera un plafond qui mangera les dépôts bancaires ? Et là, on aura une difficulté parce qu'il faudra refinancer les banques pour les dépôts qu'elles perdent.
C'est ça. C'est-à-dire que vous êtes en train déjà d'essayer de m'orienter de nous orienter sur... Il y a un sujet pour les banques, pour le modèle commercial, pour leur modèle économique. Mais avant ça, vraiment, je voudrais qu'on s'arrête, Anne-Laure, sur... Est-ce que, vous dites que c'est une bonne idée, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin ? On a nos portables, on a des cartes bancaires,
on a plein Wiru, de trucs. Ouais. On a Wiru, Vero, je ne sais pas comment l'appeler.
Wiru, moi j'appelle Wiru.
On a Wiru, donc c'est quoi la différence ? En fait, Wiru, ça passe par votre banque. Il y a un intermédiaire bancaire. Là, l'idée, c'est de désintermédier une partie de l'argent.
Vous rejoignez Patrick là, ça veut dire on paye pas l'intermédiaire, donc on va payer moins cher, c'est ça ?
Exactement. En fait, l'intérêt pour les consommateurs et pour les entreprises, c'est de baisser le coût des transferts. Donc, encore une fois, c'est un vrai service public que propose la Banque Centrale Européenne, parce que ça a une incidence sur les transactions, sur l'activité économique. Mais donc, on comprend de l'autre côté qu'il y a un intérêt particulier aux banques de s'opposer à ça. Vous allez avoir, et c'est pour ça que je vous disais au début, c'est hautement politique, c'est que, par ailleurs, sont en train de se développer tout ce qu'on appelle les monnaies privées, stablecoin, mais probablement que les auditeurs et auditrices n'ont pas entendu parler de... entendu ce nom-là.
Non.
Mais ce qui se passe, c'est que il y a une émergence de monnaies privées, en particulier quand le gouverneur de la Banque de France la disait, mon but, en fait, c'est de m'opposer à cette initiative américaine d'inonder de dollars le monde. Je crois que c'est ça, en fait, qu'il faut essayer de comprendre derrière. En fait, un stablecoin, c'est quoi ? C'est une monnaie complètement privée, donc c'est assez hallucinant, qui est hors banque. C'est exactement la même chose que l'euro numérique, mais qui est hors État. D'accord.
Donc pas de contrôle. Donc pas. Oui, c'est de la, ça peut. Donc ça peut être de l'argent sale. C'est ça les stablecoins ?
Alors les stablecoins. Alors il y a deux projets. Il y a un projet idéologique. Donc c'est effectivement de privatiser la monnaie. Quand on parle aux idéologues américains, ils sont très très pour les... Alors les stablecoins, c'est 99% des monnaies qui ont un taux de change fixe vis-à-vis du dollar américain.
Est-ce que c'est comme des cryptos ? Il faut expliquer mieux.
En fait, un stablecoin, c'est donc une monnaie privée. Et qu'est-ce que
émise
ça veut dire ? Émise par, aujourd'hui, deux gros opérateurs américains. Et pourquoi vous auriez intérêt à la prendre ? Parce que ces deux opérateurs américains vous disent « Ne vous inquiétez pas, elle est garantie par des réserves que j'ai, qui sont en dollars et donc en bons du trésor essentiellement. » Sauf que, pour l'instant, on n'en est pas sûr. Il y a une réglementation qui vient de passer aux États-Unis en juillet, qui s'appelle Genius. Nous, on a une réglementation qui est passée 2 ans avant, qui s'appelle ICAR, je crois, MICAR.
MICAR ?
Pour l'instant... Aucune de ces deux grosses stablecoins ne sont vraiment garanties par une réglementation. Et juste pour comprendre, une fois que vous avez des stablecoins, vous avez converti votre argent, vous n'avez aucune garantie qu'en réalité, vous pourrez récupérer vos sous parce que ces réserves ont peut-être été investies dans des trucs ultra instables comme des crypto-monnaies. Et c'est le cas
Patrick,
aujourd'hui.
Patrick, expliquez-nous ce risque de dollarisation.
Comme je disais à l'instant, il y a deux objets au développement des stablecoins, donc ces monnaies privées qui, normalement, et si elles suivent le Genius Act, elles ne seront investies qu'en titre du Trésor américain. Donc il n'y a plus le risque sur les nouvelles monnaies privées qu'il y a sur les monnaies privées existantes. Il y a deux objets. Il y a un objet idéologique. Donc à nouveau, c'est préférer une monnaie privée à une monnaie publique. Mais il y a un objet macroéconomique, c'est collecter le maximum d'épargne mondiale pour financer le déficit du Trésor des États-Unis. Et là, je pense que quand on parle aux Américains, le Trésor des États-Unis est plutôt sur la deuxième piste parce qu'il a un déficit public énorme et il faut qu'il rafle encore plus d'épargne dans les autres pays. Et alors, les victimes désignées, par exemple, c'est les pays émergents où il y a une grosse instabilité monétaire. Si vous distribuez un stablecoin en dollars dans un pays émergent, il y aura une demande monstrueuse et vous alimentez le financement du Trésor des États-Unis.
Donc, on alimenterait le Trésor public américain, mais via des opérateurs privés.
Oui, en fait, on financerait en effet une partie de la dette, mais quand je dis « on », c'est plutôt effectivement des pays émergents, c'est pas en Europe que ça va se passer, on n'a pas de risque de dollarisation en réalité en Europe. Mais je reviens à l'enjeu de stabilité financière. Vous vous souvenez qu'en 2008-2009, le monde entier a payé pour la crise américaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient une réglementation financière insuffisante et le reste des contribuables du monde entier ont payé pour les effets que ça a eu. En fait, en réalité, aujourd'hui, les stablecoins tels que Donald Trump se l'imagine, qui lui-même est en train de lancer son propre stablecoin, donc on a des conflits d'intérêts max là-dedans, ils ont un potentiel d'instabilité financière qui est important, dans le sens où on est en train de promettre aux gens que ces monnaies privées ont la même stabilité qu'une monnaie publique. Mmh. Or, on a une expérience, notamment au 19e siècle, les auditeurs et auditrices sont intéressés, il y a des super papiers d'Éric Monnet, par exemple.
L'économiste, M-O-2-N-E-T.
Qui explique ces enjeux. Et une monnaie privée, le problème, c'est que si elle n'est pas extrêmement bien réglementée, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière dans les réserves.
Donc, là, on vous avait vraiment posé les enjeux. Il s'agit d'une part de retrouver de la souveraineté aussi par rapport à tous les Visa, Mastercard, etc. Et il s'agit de lutter contre cette tentation de monnaie privée qui viendrait dollarisation. La conclusion, Patrick.
Le problème, c'est qu'on n'arrêtera pas le développement des stablecoins. Donc le monde va partiellement se dollariser avec des stablecoins qui respecteront le Genius Act, donc à nouveau sans risque, donc investi dans, avec le risque des titres du Trésor américain qui n'est pas grand.
Ça compris, mais si on doit faire une conclusion sur l'euro numérique.
Le problème, c'est que si l'Europe ne développe pas sa monnaie qui serait attrayante, quand même, il y aura un attrait pour cette monnaie dollar. Hein. Et alors, il y a deux réponses possibles. Soit l'Europe développe une stablecoin en euros, et ça va se faire, et il y a la monnaie numérique de la BCE, et aussi ça va se faire.
Donc vous dites que c'est une bonne idée, et ça va se faire. Anne-Laure, ça va se faire? Et vous avez confiance?
Oui, j'ai confiance. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que c'était hautement politique? En fait, on va discuter de ça au Parlement européen l'année prochaine, en 2026. Et là, c'est assez alarmant, puisque on est en train d'observer depuis 2-3 mois une alliance entre le Parti populaire européen et l'extrême droite européenne contre l'euro numérique, appuyée par les banques privées. Et là, ça veut dire que vous voyez tous les enjeux qu'on a posés, et bien enfin, il y a des intérêts particuliers qui sont en train de s'opposer à l'intérêt général.
On va suivre ça de très près maintenant que vous nous avez vraiment éclairé le paysage. Patrick Artus et Anne-Laure Delatte, ils ont fait le débat dont n'arrête pas l'écho.
La déindustrialisation
maintenant qu'on y a cette économie.
La bataille du budget chez nous, ça se passera lundi au Sénat, le vote solennel sur le projet de loi de finances. Et comment ça se passe ailleurs? Eh bien à Madrid aussi, l'absence de majorité complique l'adoption d'un budget.
La votación más importante que se lleva a cabo hoy era esa propuesta pues de la senda. Ha salido que no con 177 votos en contra. Es la segunda vez en este mes que se vota que no. Se propuso también hace 2 semanas.
C'est la votation más importante et le vote super important qui vient de se terminer. C'était jeudi, le budget de Pedro Sanchez à la Chambre des députés. Et encore une fois, le texte n'est pas passé. C'est la deuxième fois en deux semaines. Ça signifie que d'ici fin décembre, l'Espagne n'aura pas de budget pour 2026. Bonjour Marie-Hélène Ballestero.
Bonjour tout le monde. Bonjour Alexandra.
Vous êtes correspondante de France Inter, de l'autre côté des Pyrénées, où le Parlement est aussi très divisé. Et donc pour la troisième année, pas de budget en Espagne. Ça se passe comment ? Vous avez une sorte de loi spéciale ?
En fait, le gouvernement central a déjà reconduit deux années de suite le budget de 2023 qui bénéficiait d'une dotation généreuse. Et il devrait faire la même chose pour 2026. C'est un cas de figure inhabituel, mais qui est prévu par la Constitution espagnole. Il s'agit d'une reconduction automatique du cadre fiscal général qui permet à l'exécutif d'assurer le bon fonctionnement de l'État, même si cela l'oblige à une certaine sobriété et à contenir de nouvelles dépenses. Mais tout cela semble porter ses fruits, d'autant que les recettes fiscales ont nettement augmenté et l'Espagne a fortement bénéficié des fonds du plan de relance européen post-Covid qui lui ont permis de financer l'augmentation des dépenses, notamment en matière de défense. Pas d'inquiétude donc pour l'instant pour l'exécutif espagnol, même si sans nouveau budget annuel, son principal handicap reste son incapacité à lancer de grands projets.
Chez vous, Marie-Hélène, le paradoxe, c'est que la croissance atteindrait 2,9% cette année, à comparer avec nos 0,8% en France. Est-ce que ça signifie que les acteurs économiques espagnols, eh bien, ils s'en fichent, ils n'ont finalement pas besoin d'un cadre budgétaire ?
Oui, en fait, le pays fonctionne presque normalement. Certes, l'absence de nouveaux budgets provoque des tensions politiques, mais les acteurs économiques espagnols semblent se moquer du cadre budgétaire. L'économie est en plein essor, tirée par un tourisme qui a le vent en poupe, une consommation robuste, des investissements et des exportations en hausse et un marché de l'emploi dynamique porté par l'arrivée de nombreux travailleurs immigrés. Par ailleurs, l'Espagne est en train de rééquilibrer ses comptes plus vite que prévu. Mais cette embellie ne doit pas faire oublier les freins de l'économie espagnole, comme le chômage structurel élevé, sa forte dépendance au tourisme, l'endettement public important ou encore la faible productivité.
Marie-Hélène Ballestero avec nous de Madrid. h 36 sur France Inter. Dans moins de 10 minutes, nous serons avec le patron France du laboratoire pharmaceutique Novo Nordisk, Étienne Tichit. Nous parlerons de la révolution des médicaments anti-obésité. Mais d'abord, un pas de côté pour braquer le projecteur dont n'arrête pas l'écho sur le commerce illicite de médicaments et la contrefaçon, un phénomène qui est porté par les achats sur Internet. La lutte contre ces médicaments contrefaits, c'est la mission des douaniers. Parmi les médicaments qu'ils saisissent dans les aéroports, dans les gares, 10% s'avèrent être des contrefaçons. Notre reporter Léa Gage nous emmène ce matin à Montreuil, c'est en région parisienne, dans le sous-sol de la Direction Générale des Douanes. Le chef du bureau de la politique tarifaire et commerciale nous accueille au milieu de tous les stocks d'échantillons saisis.
Bonjour.
Bonjour.
Enchantée.
Enchantée.
Léa Gage, France Inter.
Yann Ambach. Nous allons dans une pièce dédiée à certaines contrefaçons saisies par les services douaniers, les contrefaçons les plus caractéristiques de celles saisies ces dernières semaines, ces derniers jours. Je vais ouvrir une caisse. Donc là, vous avez un médicament, donc Prozac, fluoxétine, hydrochloride, fabriqué en Asie, qui n'a pas d'autorisation de mise sur le marché et qui est sans doute une contrefaçon. Et à l'intérieur, donc nous avons des tablettes. À première vue, elles ont l'air de véritables gélules. Ce qui va attirer l'attention du douanier, c'est d'abord une notice rédigée en chinois. Donc ça, c'est complètement interdit, vous devez avoir des notices de médicaments rédigées en français. Ça sera une première indication. Nous allons effectuer des prélèvements et nous allons faire des analyses laboratoires. Et à l'issue, nous saurons s'il s'agit d'une contrefaçon ou pas. Alors là, vous avez plusieurs types de médicaments saisis. Vous avez des sirops anti-toux, très dangereux, hein, parce que, bien évidemment, ils ne contiennent pas les principes actifs et peuvent s'avérer dangereux pour la santé publique. Vous avez également des gélules, des pilules contre l'anxiété, maladie de Parkinson, et les médicaments contre le diabète également, qui ne conviennent pas aux normes européennes, aux normes françaises. Beaucoup de médicaments érectiles qui sont saisis. Et puis, vous avez également des médicaments amaigrissants, qui sont des médicaments contrefaits. Ce sont souvent de très très bonnes copies dans les emballages. Vous avez assez peu de différence, je dirais, dans le packaging avec les produits réels. En 2024, nous avons saisi plus de 2 tonnes 400 de produits de santé qualifiés de médicaments. Donc, ce qui représente à peu près 1 200 000 unités de médicaments. Donc, une unité, ça peut être une plaquette ou une boîte, une crème ou un flacon, qui ne disposaient pas d'AMM, donc d'autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire qui ont été vendus en dehors du circuit légal de vente que sont les pharmacies. La difficulté aujourd'hui que nous avons, c'est que de nombreux particuliers achètent leurs médicaments via Internet. Nous avons de plus en plus de médicaments que nous saisissons dans des petits colis, d'où la nécessité, je dirais, d'adapter nos méthodes de contrôle à ces nouveaux modes de consommation.
Comment vous savez qu'il faut ouvrir tel ou tel colis ?
Je ne peux pas vous en dire plus. Parce qu'après, je dirais, ça fait partie des secrets de fabrication de notre administration. Les contrefacteurs s'adaptent rapidement pour essayer, bien évidemment, d'alimenter les marchés européens et le marché français et d'essayer au maximum de passer entre les mailles du filet.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, un médicament sur deux proposé à la vente sur Internet serait un faux.
Alexandre de la Volpilière, directeur général adjoint à l'ANSM, l'Agence du médicament.
Sur les réseaux sociaux, des publicités vantent les vertus de ces médicaments et il est facile de les commander en quelques clics.
On a détecté un certain nombre de sites, plateformes du commerce en ligne. On avait Amazon, on avait Cdiscount, eBay et on a beaucoup d'autres qui hébergeaient des annonces de médicaments frauduleux, des produits qui sont présentés comme des médicaments. Un titre d'exemple, les GLP-1. Les trafiquants vendent ces produits sur Internet et sur ces sites qu'on trouve en patch, en comprimé, pour maigrir. La famille thérapeutique des GLP-1 permet, dans un circuit classique, légal, de lutter contre le diabète et l'obésité. Ces médicaments sont sur ordonnance. Ça veut dire que pour les utiliser, il faut passer par un médecin, délivré par un pharmacien, et ce sont des médicaments qui sont autorisés. On les retrouve en seringue pré-remplie. Ça, c'est le circuit légal. L'agence du médicament n'a jamais enregistré de patch, de comprimés, d'autres formes pharmaceutiques que des seringues pré-remplies. Donc déjà, si vous trouvez sur Internet des patchs, vous savez déjà que ce sont des faux médicaments. Ce qu'on trouve dans ces produits qui sont mis sur Internet, ce sont au mieux rien, au pire des produits qui peuvent être dangereux et toxiques pour les patients. Et je voudrais alerter aussi les acheteurs, les consommateurs de ce type de produits. Au-delà de mettre leur vie en danger, c'est aussi les arnaques qu'il peut y avoir aussi autour de ces produits-là. Ils ne vont jamais recevoir le produit, potentiellement, ou bien se faire voler leur code de carte bleue. Et c'est important d'alerter le consommateur pour éviter qu'il puisse acheter ces médicaments soi-disant miracles, mais qui n'en sont absolument pas.
L'ANSM a exigé des plateformes de commerce en ligne qu'elles retirent les annonces des médicaments frauduleux. Amazon, eBay et Cdiscount se sont exécutés, mais 7 autres sites mis en cause font la sourde oreille. L'agence a saisi le procureur de la République pour que des poursuites soient engagées. Difficile, parfois, de distinguer le vrai du faux sur les annonces en ligne, car il existe bien sur Internet des ventes légales de médicaments, mais elles sont limitées et encadrées. Sur les presque 20 000 officines que compte la France aujourd'hui, seules 838 qui en ont fait la demande sont autorisées à en vendre, et uniquement ceux qui peuvent être délivrés sans ordonnance. Alain Groslot est le président de Fédergy, la chambre syndicale des groupements et enseignes du secteur, qui représente 12 000 pharmacies en France.
Malheureusement, dans l'été, on a été victime d'une cyberattaque, comme beaucoup d'autres circuits, hein, pas uniquement la pharmacie française. 5000 sites frauduleux sont apparus avec des logos, avec des usurpations d'identité qui laissaient paraître que c'était des sites tout à fait légaux. Ils sont reliés à des pharmacies physiques en France. Et malheureusement, on s'aperçoit que non, parce que lorsqu'on va creuser un petit peu dans ces sites, on s'aperçoit déjà qu'ils vendent des médicaments à prescription obligatoire, ce qui est totalement interdit. Donc, on est sur une vigilance importante pour mettre en alerte l'ensemble des consommateurs, de dire attention, n'allez pas sur ces sites. Mais c'est très complexe de les identifier par rapport aux sites légaux. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau de Fédergie, on a réfléchi depuis quelques mois à sortir un portail de service qui s'appelle Ma Pharmacie en France et qui aura le gros avantage d'héberger toutes les pharmacies qui le souhaiteront. Et pour le patient, on sera sûr à 100%, lorsqu'on ira sur ce portail de service Ma Pharmacie en France, d'être redirigé vers une pharmacie en ligne française. On va avoir ce rôle de bouclier par rapport à ces cyberattaques.
Il n'empêche, le marché illicite de médicaments continue de progresser. C'est ce que constate Morgane Gaudiot. Elle est économiste au sein du groupe de travail de l'OCDE sur la lutte contre le commerce illicite.
Comme toute économie illicite, en fait, c'est quand même très compliqué d'avoir des données parce qu'on parle par définition d'un phénomène qui est caché. Mais nous, à l'OCDE, nos travaux ont permis d'estimer la valeur du commerce mondial de médicaments contrefaits à environ 4 milliards d'euros au niveau mondial. Donc ce sont des données qui datent un petit peu puisqu'elles se réfèrent à 2016. Mais des nouveaux travaux vont bientôt voir le jour pour actualiser un peu cette estimation et voir aussi comment le commerce a évolué, même si nos échanges réguliers avec les autorités douanières montrent bien que c'est un marché qui croît régulièrement. Ça ne reflète pas directement les profits, mais on sait en fait qu'ils sont très élevés puisque les coûts de production sont assez faibles. Les prix de vente peuvent être proches, voire supérieurs à ceux des médicaments authentiques. Et en fait, les risques de détection restent faibles. Alors, au-delà des enjeux sanitaires qui sont extrêmement importants, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'impact économique aussi. Bah, tout simplement pour les entreprises pharmaceutiques, les pertes de revenus sont quand même significatives, avec à la clé aussi des risques sur l'emploi et un affaiblissement durable de l'image de marque. La confiance des patients qui peut être sérieusement érodée. Du côté des pouvoirs publics, il y a quand même des manques à gagner fiscaux qui s'ajoutent au coût aussi pour les systèmes de santé, hein, puisque il ne faut quand même pas oublier que les produits contrefaits sont souvent inefficaces ou dangereux. Et il ne faut pas oublier de mentionner le coût représenté par la lutte contre le commerce de médicaments contrefaits, hein, qui nécessite des moyens humains, parfois techniques aussi. Et donc ça fait partie aussi des coûts à prendre en compte pour les finances publiques.
La contrefaçon de médicaments, un fléau sanitaire et un fardeau économique, c'était le reportage de Léa Gage.
France Inter, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Nous continuons la réflexion avec le patron de Novo Nordisk. Bonjour et bienvenue Étienne Tichit.
Bonjour.
Novo Nordisk, c'est un laboratoire centenaire au Danemark. En France, c'est une usine à Chartres qui produit de l'insuline, mais aussi l'antidiabétique Ozempic et l'anti-obésité Wegovy, qui imitent tous les deux une hormone qui coupe la faim. Ce sont les médicaments stars de l'époque et on va parler ensemble de cette révolution. Mais d'abord, j'aimerais votre réaction au reportage qu'on vient d'écouter ensemble. À quel point la lutte contre la contrefaçon vous prend du temps, de l'énergie en France ?
Déjà, faut tous se rappeler, je pense que le reportage était bien fait, sur le fait que déjà on parle de santé et le risque pour les personnes et le risque encouru par les personnes qui vont sur ces sites, sur ces plateformes. Donc pour nous, notre priorité, c'est vraiment la santé des patients, la santé des individus qui suivent ces traitements.
Vous savez, quand vous trouvez des contrefaçons, vous les analysez, vous savez ce qu'il y a dedans ?
Oui, bien sûr. Donc on fait tout ce suivi. Donc et là, d'ailleurs, je peux vous dire, on a une cellule qui est dotée en fait de spécialistes, alors qui font des analyses sur les formulations et tout ça, mais aussi des spécialistes des fraudes qui connaissent les mécaniques de fraude, en particulier la personne qui est en charge en fait de toute la cellule européenne et une ancienne des douanes en France, une ancienne agente des douanes, donc elle est très rompue à l'exercice. C'est important dès l'instant qu'il y a alerte, signal ou quoi que ce soit, de pouvoir contrecarrer ce signal et puis faire fermer les sites, faire fermer les plateformes et tout ça.
C'est vraiment...
On est à peu près sur 90%, pour vous dire, hein, on est à peu près sur 90% des sites sur lesquels on arrive à avoir une action aujourd'hui. 70% sur les marketplaces, donc c'est plus dur sur les marketplaces que sur les sites connus. Et ensuite, rappelons-le, là où vous pouvez avoir aujourd'hui votre traitement en toute garantie, c'est chez le pharmacien. Donc on a un système en France de distribution qui est privilégié, qui est via le pharmacien et qui accompagne aussi la prescription. Et puis moi-même étant pharmacien, vous comprenez que c'est, je valorise peut-être cette exception française, mais en tout cas cette mainmise du pharmacien sur des produits de qualité originaux. Et c'est ça ce qu'on s'emploie à faire.
C'est n'importe quoi ce qu'il y a dans ces... Il faut le dire, c'est n'importe quoi ce qu'il y a dans, les, dans, dans ces produits contrefaits.
C'est dramatique.
Vous, c'est par exemple, vos médicaments contre l'obésité, c'est des choses qui s'injectent, hein, des seringues. Il y a des contrefaçons où il y a n'importe quoi.
Mais il y a de tout. Il y a de tout. On fait croire aux patients et aux personnes qui sont touchées par l'obésité que ça peut marcher en gomme, en patch et tout ça. Si ça avait été si facile, nous l'aurions fait. Donc vous le savez déjà que ce sont des contrefaçons quand vous avez un mode d'administration qui n'est pas connu. Ensuite, sur les formes injectables, on a vu des produits sur lesquels il n'y avait pas de principe actif ou d'autres principes actifs ou des dosages qui sont iconoclastes avec des impuretés.
Ouais.
Donc voilà, la santé est là.
Ok. L'actualité de la semaine, c'est le projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Il a été adopté mardi à l'Assemblée. Alors, le texte va faire un petit tour au Sénat, mais normalement, les députés auront le dernier mot. Certaines mesures touchaient les médicaments. Il y a eu une grosse discussion, par exemple, sur les franchises. Le doublement était prévu. Ça a été abandonné. Vous, Étienne Tichit, laboratoire pharmaceutique, vous avez quel jugement sur la copie finale ?
La copie finale, déjà, elle est extrêmement délétère à l'innovation. C'est ça ma plus grande inquiétude. On a un modèle social qu'on vante régulièrement. Pour autant, dans la santé, aujourd'hui, le médicament, c'est quoi ? C'est 9% du budget de la santé. 9% quand les Européens sont plutôt autour de 13-14%.
En milliards, ça fait ? Donc, le budget du médicament, est-ce que c'est 36 milliards ?
Ouais,
c'est ça que j'ai en
non,
tête.
On est sur une trentaine de milliards. Ouais, donc, ouais. Mais donc, très concrètement, on a un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, les innovations, et 40% des innovations qui arrivent en Europe, n'arrivent pas en France. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui délivrer la santé des années 50 avec des vieux produits ? Je ne pense pas. Les besoins sont nouveaux. Grandissent parce que la population est vieillissante. Et surtout, derrière, on a une recherche qui est très active. Et moi, c'est aussi le message que je voudrais porter. C'est important de soutenir la recherche en Europe. Quand vous évoquez nos molécules, nos innovations, ce sont des innovations européennes. Donc derrière, ce sont des chercheurs. Qui dit chercheur dit des hôpitaux. Donc tout ça, c'est aussi un financement de tout un écosystème de santé, de recherche. Et ça, il est crucial.
C'est le plaidoyer habituel des laboratoires. C'est-à-dire que
mais il est réel.
Vous dites que l'innovation, quand vous dites 40% des médicaments innovants n'arrivent pas en France, c'est parce que les labos ne veulent pas vendre au prix auquel l'assurance maladie française est prête à payer. C'est
non,
ça
je
le
prendrais
sujet
la question dans l'autre sens. C'est pourquoi l'innovation n'est pas autant reconnue en France que dans le reste de l'Europe. C'est pour ça que c'est important aussi, je pense aussi dans le contexte mondial actuel, c'est d'en appeler à une Europe de la santé. Et de se dire qu'on a une zone géographique importante à traiter, parce que notre plus grand capital, ça, c'est la santé. Hein. On va vivre plus longtemps, et on veut vivre plus longtemps en bonne santé. Donc pour moi, le PLFSS et son approche est délétère, parce qu'il a introduit une nouvelle taxe, donc 1,6 milliard de taxes supplémentaires pour les entreprises du médicament, avec en complément cette clause de sauvegarde qui, en cas de dépassement du budget, mais quand on dit en cas de dépassement du budget, c'est parce qu'il faut revoir le budget en fonction des besoins de santé des Françaises et des Français. Donc c'est tout ça qu'il faut recomposer. Donc moi j'en appelle vraiment à pivoter sur une politique de santé nouvelle. Aujourd'hui, cette politique de santé et ce budget est délétère au monde de la santé et à l'innovation.
Étienne Tichit, alors parlons justement des médicaments anti-obésité, de cette révolution. Qu'est-ce que ça pourra avoir comme impact, vos médicaments, l'Ozempic, le Wegovy, bon, il y a des concurrents, je vais citer par exemple le Mounjaro de l'américain Eli Lilly. Qu'est-ce que ça peut changer à nos comptes de santé ?
Déjà, c'est intéressant de faire les comptes, justement. C'est que si on regarde donc toute la partie coût pour la sécurité sociale, pour le système social français, on est aujourd'hui sur 14 milliards de coûts annuels. Je passe les 14 milliards de coûts pour les personnes...
Ça, c'est l'obésité et les maladies...
Donc là, on parle de l'obésité.
Là, je parle et la comorbidité.
De l'obésité et
cancer, diabète,
associé.
Tout ça. Okay.
Donc l'obésité, 14 milliards. Pour les comptes de la sécurité sociale. 14 milliards aussi pour les individus, pour les personnes et les hommes et les femmes qui en souffrent. Parce que ces 14 milliards, c'est quoi ? C'est une difficulté d'accès à l'emploi. 273 000 femmes n'accèdent pas à l'emploi aujourd'hui en France du fait de leur situation d'obésité. De l'autre côté, vous avez des décalages de salaire parce que vous êtes atteint d'obésité. Donc,
niveau ?
Et ça, c'est 14 milliards. Alors, c'est 0,3% d'écart de salaire par point d'indice de masse corporelle.
Donc, alors, ça joue sur le salaire. Non, mais le physique joue sur le salaire.
L'étude Asterès
le
confirme.
C'est la discrimination.
Exactement. Donc, qu'est-ce que ça peut changer ? Déjà, ça peut, si on travaille sur la prévention, la prise en charge plus précoce et la couverture de ces pathologies. Derrière, ce sont des pathologies qui sont associées en général à l'obésité, qui arriveront soit plus tard, voire qui ne se développeront pas. Et surtout, ça aura un impact assez rapide sur les comptes de la sécurité sociale,
mais à quel
les
niveau,
fameux 14 milliards.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez anticiper ? Que dit dans son plaidoyer Novo Nordisk quand il parle avec l'assurance maladie ?
Bah, écoutez, je pense
une
que...
Une économie de combien ? Enfin, en pourcentage ? Ou qu'est-ce que vous voyez aux États-Unis peut-être ?
Écoutez, sur la partie américaine, on voit bien, déjà, 7% des personnes en situation d'obésité sont traitées par ces molécules-là, des molécules innovantes. Derrière, vous avez une courbe de l'obésité qui s'affaisse aux États-Unis. C'est la première fois, depuis des dizaines d'années, que la courbe d'obésité baisse aux États-Unis. Donc, vous savez déjà, d'emblée, qu'il va y avoir un impact fort sur les coûts pour la sécurité. La sécurité sociale, si on était dans notre pays, mais pour les assureurs aux États-Unis et en général pour la société.
Aux États-Unis, oui, c'est les assureurs privés. Étienne Tichy, du coup, je vous emmène sur l'autre côté de la discussion qui est le prix de ce traitement, parce qu'il vaut, vous avez dit, c'est une innovation, ça vaut cher, je lis. Alors, il n'est pas remboursé encore le Wegovy, par exemple.
Ça n'est pas le cas en France.
N'est pas le cas en France. Ça vaut, je lis, dites-moi si c'est vrai, jusqu'à 300 euros par mois. Est-ce que vous êtes en discussion avec l'assurance maladie ? À quel moment ça peut se débloquer ? Ou bien est-ce que c'est trop dur, vu les comptes, vous n'y arriverez jamais ?
Bah écoutez, moi j'ai toujours l'espoir qu'on puisse trouver une voie pour les patients qui en ont besoin. Ça, c'est la première chose. Donc bien évidemment, on redouble d'efforts pour réussir à avoir des personnes qui soient prises en charge. Et d'ailleurs, c'était aussi ce qu'on avait signifié en démarrant un accès précoce. Donc là, maintenant, ça date maintenant d'il y a plus de 3 ans et demi, 4 ans, qu'on a démarré cet accès précoce, pour pouvoir donner déjà une chance de plus aux personnes qui sont en situation d'obésité extrême. Donc, j'ai bon espoir qu'un jour, on trouve une solution pour ces patients-là. Parce qu'encore une fois, la question, c'est qu'on ne peut pas nier que l'obésité est dans nos familles, à notre proximité directe, et on ne peut pas nier que ce soit un coût pour la sécurité sociale.
C'est prescrit plus seulement par les spécialistes, mais c'est prescrit aussi maintenant par les généralistes depuis fin juin. Est-ce que la demande a explosé ?
Non, la demande, elle est raisonnable. Et encore une fois, je pense
c'est combien de personnes ?
Quand on regarde, en fait, ce qui était important, c'est dès l'instant qu'on a des innovations comme celle-là, derrière, il faut créer des parcours de soins. Donc, c'est ce que les scientifiques, les spécialistes de l'obésité ont mis en place, ont rédigé des parcours de soins. Et puis, de l'autre côté aussi, des parcours de prise en charge, donc thérapeutiques. Et là, récemment, on a des nouvelles recommandations. Donc, c'est important aussi de pouvoir accompagner, c'est pas juste des traitements, c'est comment on les accompagne et comment on arrive à un succès thérapeutique.
Dernière question, Étienne Tichit. La concurrence est féroce, avec les Américains, avec Roche, avec Pfizer. Novo Nordisk n'est pas dans son meilleur moment. Succès en 2023, mais depuis, l'action a chuté. Et vous avez annoncé en septembre 9000 suppressions de postes. Qu'est-ce qui se passe à Chartres ? Est-ce que ça remet en cause votre plan de vol, doublement de la production jusqu'en 2028 ?
Déjà, la première chose, c'est la valeur créée ne se mesure pas à l'action de bourse. Donc ça, c'est la première chose. On continue sur notre mission. Notre mission, c'est une mission déjà de plus de centenaire. Donc dans les maladies chroniques, diabète, obésité, on continue à innover. On continue à faire des acquisitions. On continue le combat parce que...
Et à Chartres. À Chartres, 1900 personnes.
Eh bien, on continue. On continue les travaux parce que les besoins en santé sont là et qu'on délivrera les besoins en santé dans le domaine du diabète et de l'obésité avec nos innovations. Donc on va doubler notre site de Chartres comme c'était prévu.
Étienne Tichit à la tête de Novo Nordisk en France. Merci d'avoir accepté l'invitation d'On n'arrête pas l'écho.
Merci à vous.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Sandrine Foulon, voici la question de Vincent qui est coursier à vélo à Paris. Il est salarié en CDI. Alors à 9h du matin, il pointe sur une appli, il attend qu'un algorithme lui envoie une course. Son employeur le géolocalise et il trouve que Vincent met trop de temps à sortir de chez lui, à rouler vers son premier client. Donc son employeur lui retire des minutes de salaire pour absence non autorisée. Est-ce que c'est légal, Sandrine ?
Le procédé, Vincent, n'est pas très cohérent avec le droit du travail. Si votre contrat stipule que vous devez être disponible dès 9h depuis votre domicile, le trajet jusqu'à votre première course est considéré comme du temps de travail effectif. Car vous êtes ce qu'on appelle un salarié itinérant, vous n'avez pas de lieu de travail fixe. Le droit français s'est calé sur celui de la Cour de justice de l'Union européenne. Dans la mesure où vous ne vaquez pas à vos occupations personnelles sur le chemin et qu'en plus, c'est un algorithme fourni par votre employeur qui vous donne les consignes, la direction ne doit pas s'amuser à décompter le temps que vous mettez à prendre vos affaires et à enfourcher votre vélo. Le second point concerne la sanction financière et il intéresse tous les salariés, itinérants ou pas. Si on doit commencer à travailler à 8h pile et qu'on est en retard, l'entreprise n'a pas le droit de nous infliger une sanction pécuniaire. La seule sanction possible est disciplinaire. Un avertissement qui peut aller jusqu'au licenciement si le problème est récurrent. C'est ce qui est arrivé au photographe Robert Doisneau quand il travaillait chez Renault. Le constructeur l'a viré pour retard répété. Dans votre cas, Vincent, le mieux est de vous rapprocher d'un représentant du personnel, de l'inspection du travail ou d'un avocat pour comprendre pourquoi votre employeur minute le temps entre la réception de la commande et le moment où vous mettez un pied sur la pédale.
Et Sandrine, est-ce que la situation aurait été la même si Vincent avait été auto-entrepreneur ?
La situation est beaucoup plus précaire pour les livreurs indépendants. En avril 2023, un accord a bien été signé par les plateformes pour que les coursiers auto-entrepreneurs ne puissent pas toucher moins de 11,75 € par heure d'activité. Mais ça, c'est sans comptabiliser le temps d'attente entre deux commandes. Il y a même aujourd'hui des particuliers qui font du co-transportage ou du co-voiturage de colis moyennant un pourboire. A l'inverse, un coursier en CDI a lui une rémunération garantie. C'est ce que rappelle Alexandre Fontana, le délégué général du Syndicat national des transports légers qui défend le modèle du salariat. Évidemment, Vincent, ce n'est pas parce qu'il y a pire ailleurs qu'il faut tout accepter, mais ça vaut sans doute le coup de persuader votre patron de revenir dans le droit chemin.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.